Salut à tous. Backseat, c'est LE talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le club Backseat pour 15 euros par mois en cliquant sur le lien dans la description.
Évidemment, on a envie d'aborder beaucoup de sujets avec vous, mais quand même, un petit côté priorité à l'actu quand même. Suite au développement de ces dernières semaines, Emmanuel Macron, hier soir, a fait une allocution au cours de laquelle il a dit que la Russie était une menace pour l'Europe et pour la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur ce point-là?
Mais en fait, ça dépend de ce qu'on appelle menace. Que la Russie mène en France des opérations de déstabilisation, ça a été très largement documenté. Ça peut être des attaques cyber, ça peut être y compris des campagnes de désinformation. Ouais. On a eu un certain nombre d'exemples de cela l'année dernière. Je ne sais pas
les
si vous vous rappelez, quand il y avait
les
étoiles de David sur les murs en pochoir. Bon, on a eu l'information que ça venait et ça participait de campagnes de déstabilisation russe. Donc ça, évidemment que c'est le cas. Maintenant, essayer de dire, comme l'a dit le président de la République hier, qu'en quelque sorte, les troupes russes sont aux frontières de la France... Là, je dis, faut être un petit peu raisonnable.
Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'ils ne s'arrêteront pas à l'Ukraine.
J'ai entendu les troupes sont proches de nos frontières. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, dire chaque jour qui passe, oui, le front se rapproche de la France. Ouais. Bon, heureusement et malheureusement d'un certain point de vue, puisque pour les Ukrainiens, pour l'instant, l'armée russe, elle est bloquée à l'intérieur de l'Ukraine depuis des mois et des mois. Donc je dis pas ça pour sous-estimer les inquiétudes ou les risques. Je dis il faut être un peu conséquent et être un peu cohérent parce que honnêtement, si les troupes russes étaient aux frontières de la France, alors on aurait un grave problème. Et je vois
le
bien
fait qu'elles soient aux frontières de l'Ukraine, c'est un problème moins grave.
Mais non, c'est un problème. Mais je vois bien comment le président de la République essaye aussi, et ça, je pense que ça n'a échappé à personne hier, d'attiser la peur pour venir nous dire ah bah maintenant il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir en payer les conséquences. J'ai entendu le gouvernement du Danemark dire il va falloir mettre la retraite à 70 ans parce que c'est comme ça qu'on va financer nos dépenses militaires. Donc il faut prendre la menace sérieusement, elle est sérieuse, mais il faut pas non plus que ça conduise en quelque sorte à alimenter des discours qui sont des discours bellicistes, va-t-en-guerre, qui après vont venir... servir un peu de ce que Naomi Klein appelait la stratégie du choc, c'est-à-dire maintenant, les reculs sociaux que pour l'instant vous n'avez pas voulu accepter, il va falloir les accepter, parce que comme par hasard, quand le président de la République dit ça hier, il dit mais par contre, les augmentations de dépenses militaires, ça sera sans hausse d'impôts. Et dans le discours,
il n'a pas précisé derrière sur quel d'où viendrait l'argent.
Il a très très bien précisé quand vous dites sans hausse d'impôts dans le discours macroniste, pour l'avoir vécu dans les discussions budgétaires à l'Assemblée nationale, ça veut dire sans mise à contribution des plus riches, ça veut dire sans taxation des grandes entreprises.
C'est
des grandes
augmentations de la dette, vu que la dette ne sera plus comptabilisée dans le déficit.
Ça peut être un
déficit.
Emprunt aussi,
ouais,
un emprunt auprès des Français. Auprès des Français eux-mêmes. Ça peut
Avaient évoqué cette hypothèse, mais hier, il n'en a pas parlé. Mais alors oui, j'ai vu que maintenant, on nous dit qu'au niveau européen, on suspendrait la règle des 3% pour les dépenses militaires. Ah bah peut-être qu'on aurait pu le faire avant pour les dépenses liées à la transition écologique, au développement de nos services publics. Parce que là, la règle, elle posait pas de problème, elle était indispensable, on pouvait pas la bouger. Et là, par contre, on peut la bouger. Donc moi, je dis attention à comment le risque de guerre, la peur que tout le monde va essayer de diffuser sur le pays, comment ensuite c'est utilisé au service d'un agenda politique national.
Je précise que vous êtes député des Bouches-du-Rhône,
oui,
et que vous siégez à la commission de la défense,
oui,
justement. J'ai une question quand même précise pour vous. L'éventualité de la présence de troupes françaises sur le sol ukrainien dans le cadre d'un cessez-le-feu ou d'une paix qui serait signée entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Mais qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je dis que... Alors, d'abord, je vais répondre à votre question, mais le président de la République hier... Et c'est bizarre quand même dans son intervention, on n'a quasiment pas parlé de l'Ukraine en l'occurrence, des quelles seraient les conditions de la paix en Ukraine. Si on veut une paix, moi je suis pour qu'il y ait une paix le plus rapidement possible, qui soit juste et durable, il faut fournir des garanties de sécurité. C'est-à-dire l'Ukraine, à juste titre, doit pouvoir disposer de garanties que cette paix ne se traduit pas par une nouvelle guerre dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Donc il faut déterminer quelles sont ces garanties de sécurité. Donc l'idée qu'il puisse y avoir des troupes au sol pour comme garantie de sécurité, c'est pas une idée que je trouve a priori absurde. Le problème, c'est dans quel cadre. Or, si ça doit être des troupes françaises ou des troupes franco-britanniques, alors moi, je suis pas d'accord. Si par contre on dit On va construire une résolution de l'Organisation des Nations Unies pour garantir la paix et qu'il y a des casques bleus qui sont là pour vérifier que l'accord de paix est effectivement respecté. Alors je dis pourquoi pas.
Vous pensez
mais
que
ça soit sous mandat de l'ONU.
Parce que à l'ONU, rappelons-le, pour le dire, mais la Russie a un droit de veto.
Bah oui, mais précisément si vous êtes dans le cadre d'un accord de paix, c'est donc un accord de paix qui est accepté par la Russie et par l'Ukraine.
Vous avez vu la réaction de Poutine aujourd'hui?
Ah, j'ai bien vu, ça m'a pas échappé.
Donc a priori, l'option dont vous parlez, c'est déjà mort.
Mais donc il y aura pas de paix. Enfin, je veux dire, si on se pose dans le scénario dans lequel on arrive, et ça doit quand même être, à mon avis, notre objectif, à créer les conditions, parce que l'objectif, c'est que la guerre s'arrête le plus rapidement possible, quand même. Si l'objectif, et si on est dans le cadre d'un accord de paix, ça veut dire qu'on a convaincu les différents belligérants de s'asseoir à la table des négociations et de signer un accord de paix. Si on arrive à signer un accord de paix, alors je dis pas que c'est facile, mais je pense qu'il faut essayer de faire intervenir l'ONU comme puissance en charge du respect de cet accord de paix.
Jules,
je voudrais qu'on revienne sur la question des avoirs qui se posent en ce moment et qui est assez étonnante parce que pendant longtemps, alors
je peux préciser.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand au début de la guerre, il y avait de l'argent en Europe qui était de l'argent russe, de fonds souverains russes comme d'oligarques. Il y a les deux qui existent. On les a bloqués. On n'a pas tapé dedans. On a tapé dans les dividendes. Apparemment,
on les a gelés en fait. On les a utilisés.
Pour financer les dividendes. Ça, on avait le droit apparemment parce qu'il y a des questions de droit international qui se posent et qu'on peut pas faire n'importe quoi avec les avoirs bloqués. Mais là, en ce moment, voilà, des pays ont pris position pour dire non. Maintenant, il faut qu'on tape dedans pour aider l'Ukraine ou même à la reconstruction de l'Ukraine. C'est-à-dire, en gros, les Russes vont payer pour leurs dégâts. Gabriel Attal, qui était contre avant. Maintenant et pour. Alors deux questions. D'abord.
Et la France insoumise est contre, en l'occurrence.
Alors et je vous ai entendu. Je crois que c'était ce matin chez Apolline de Malherbe.
J'ai précisé.
Expliquer que bon quand même. Alors vous voyez pourquoi il faudrait pas que. Alors non, parce que. La question elle est un peu technique parce que le droit international, la règle voudrait qu'on fasse pas ça pour pas déstabiliser l'économie mondiale. C'est-à-dire si on commence à se dire waouh l'argent quand il est là on sait jamais ça peut être bloqué. Les marchés n'aiment pas ça. Les marchés n'aiment pas qu'on puisse que des voilà. Donc normalement la règle c'est qu'on fait pas ça. Mais on essaie de trouver comment contourner le truc. Et moi, je dirais que j'étais assez étonné de me dire, bah, la France insoumise, normalement, ils s'en foutent de la stabilité des marchés mondiaux, de ceux qui ont beaucoup d'argent, qui veulent qu'ils soient en sécurité dans les banques. Vous avez une approche plus politique de l'économie. Et donc, quelle est cette position? Ça vient d'où? Pourquoi vous pensez qu'Attal a changé d'avis sur cette question? Et pourquoi vous défendez le fait qu'il ne faut pas déstabiliser la Russie de cette façon en tout?
Alors attendez, moi,
ni
je
les
vais,
marchés internationaux.
Je vais préciser mon point de vue et le point de vue de la France insoumise sur ce sujet, parce que j'ai lu et entendu beaucoup de choses depuis quelques jours. Bon, premièrement, vous l'avez dit, il y a aujourd'hui des mesures de gel qui ont été prises, de gel des avoirs. Les avoirs, il y en a deux types. Il y a l'essentiel des avoirs qui sont positionnés en Europe, c'est la Banque Centrale Russe. Et ensuite, il y a des avoirs des oligarques, des personnes proches du régime, etc. Tous ces avoirs-là, ils ont été gelés. Et moi, j'étais tout à fait favorable au gel de ces avoirs, évidemment. Ensuite, il y a la question de savoir si on peut les confisquer. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, on s'emparer de l'argent et l'utiliser pour faire quelque chose. Bon. Moi, en ce qui concerne le gel ou la confiscation des avoirs des oligarques, moi, j'ai aucune difficulté. Il faut juste qu'on trouve la base légale pour le faire, parce que pour l'instant, pardon, après on peut décider qu'on fait ce qu'on veut, mais pour l'instant, par exemple, le Canada a essayé il y a quelques mois de faire adopter une proposition de loi pour faciliter la base légale pour les saisir, et pour l'instant, ils ont pas réussi. C'est pas juste cosmétique. Ce que je suis en train de dire, c'est que si à la fin vous avez pas la base légale, ça veut dire que les oligarques, même si vous les aimez pas et je les aime pas, qui sont floués, ils vous attaquent devant les tribunaux et ils vous font payer des pénalités financières qui parfois peuvent être plus chères que ce que vous avez saisi. Donc, faut quand même faire un peu attention.
D'ailleurs, fait les États un par un? Non, parce que l'argent.
Là, je parle des oligarques, des individus. Là, moi, sur le principe, je suis d'accord. Après, il y a un autre sujet. C'est les avoirs de la Banque Centrale Russe. Bon, alors c'est vrai, vous pourriez me dire, en tant qu'anticapitaliste, déséquilibrer l'économie mondiale ne devrait pas vous déranger. Mais le problème, c'est qu'il faut être un peu raisonnable et réfléchir aux mesures de réciprocité. Parce que nous-mêmes, la Banque Centrale Européenne, on a des avoirs qui sont positionnés dans un certain nombre d'autres pays. S'il n'y a plus aucune base légale à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de principe, il y a un principe qui s'appelle l'immunité souveraine, vous n'avez pas le droit de vous emparer des avoirs, mais alors ça veut dire que les autres peuvent faire la même chose, et pas toujours parce qu'il y a une guerre.
Alors pourquoi ça fait pas peur à Gabriel Attal, ça, par exemple?
Parce que je pense que Gabriel Attal, il fait de la communication. Parce que je pense que lui-même, il sait très bien que c'est extrêmement dangereux pour nous de le faire. Donc, moi, si on trouve les bases légales, franchement, c'est pas moi qui vais pleurer sur les avoirs des oligarques russes. Hein. Je dis juste, je sais pas, j'essaye d'être un peu sérieux dans les propositions que je fais. C'est assez facile de venir sur les plateaux de télévision et dire, en plus, c'est assez populaire, ah, on va prendre l'argent des Russes pour aider les Ukrainiens. Bon, moi, si on est capable de le faire, il n'y a pas de problème. Mais si à la fin, ça se traduit par le fait que notre propre monnaie, elle se retrouve déstabilisée, bah, je suis pas sûr qu'on va me féliciter pour avoir fait cette proposition.
Après, vous dites aussi, il y a le respect du droit international.
Évidemment.
Et après, on va vous répondre.
Mais les deux vont ensemble.
Poutine s'en fout du droit international, donc nous aussi, on pourrait se sentir tout permis. C'est ce qu'on vous répond. Enfin, à quoi vous répondez quoi?
Bah, je sais pas, je propose de pas appliquer tout à fait cette logique dans notre société, parce que quand quelqu'un viole la loi, ça vous donne pas spécialement le droit de violer la loi en réponse, quoi. Parce que, enfin,
oui, d'ailleurs, c'est un principe juridique. C'est un principe juridique, hein, ouais.
Donc, je propose de faire attention. Par contre, il est possible dans certaines circonstances que si un pays viole le droit international, alors il y a des actions qui, en temps normal, sont contraires au droit international, deviennent légales du point de vue du droit international parce qu'elles sont en réponse à une violation du droit international. Ça peut exister. En l'occurrence, c'est pas le cas, ce principe de l'immunité souveraine. Moi, j'essaie juste de faire attention à ce que les mesures qu'on veut mettre en place et que je peux partager d'un point de vue philosophique se retrouvent pas en retour de boomerang pour nous.
Il y a une question qui était quand même assez sous-jacente dans le propos d'Emmanuel Macron d'hier, lorsqu'il parlait d'agir en européen. Il adore cette expression, mais plus profondément que ça, c'est l'idée de la construction d'une Europe de la défense.
Oui.
Il se trouve que vous êtes radicalement opposé à l'idée d'une Europe de la défense. J'ai relu tous les billets de blog de Jean-Luc Mélenchon qui dit tout le mal qu'il pense de cette idée. Est-ce que c'est une position que vous défendez toujours aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut évoluer à l'avenir? Quelles pourraient être les conditions d'une bonne Europe de la défense?
Bon, c'est la bonne question, parce que moi, je suis évidemment pas opposé au principe de coopération de défense en matière européenne. Il y a plusieurs problèmes dans ce qu'on appelle l'Europe de la défense aujourd'hui. Le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est dans les textes et même dans les traités européens, l'Europe de la défense, elle est perçue comme étant ce qu'on appelle le pilier européen de l'OTAN. Donc, vous pouvez pas en même temps dire, je pense que tout le monde a vu l'image Trump-Zelensky et tout le monde a été saisi d'effroi face à ça. Vous pouvez pas en même temps dire, face à ça, on doit garantir notre indépendance, notre autonomie, ne pas être dépendant des Américains et construire l'Europe de la défense comme pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire de rester dans une alliance militaire avec les Américains. Donc si l'Europe de la défense est à l'intérieur de l'OTAN, je vois pas en quoi c'est une réponse en termes d'indépendance vis-à-vis des États-Unis.
Mais si on en sort...
Donc, la première condition, c'est que cette Europe de la défense, si on veut qu'elle puisse exister, elle doit être indépendante
si
de...
Si les États-Unis en sortent.
Ah bah si les États-Unis en sortent, il y a plus d'OTAN. Hein.
Oui, justement, donc, sur les ruines de l'OTAN, on peut construire une Europe de la défense.
Alors ensuite, deuxième sujet, pour avoir une politique de défense commune, il faut avoir une politique extérieure commune. Oui. Bon, la défense, c'est un attribut de la souveraineté et ça doit répondre à des objectifs que vous déterminez.
Bon, après, moi, je suis pas sûr qu'on ait des fonctions de haut représentant pour les affaires extérieures au niveau européen. Quand même.
Vous avez raison, mais vous avez l'impression qu'honnêtement, il y a une politique extérieure commune européenne aujourd'hui sur les grandes questions internationales. Vous parliez tout à l'heure, avant que j'arrive, de la situation à Gaza. Vous avez l'impression que tous les Européens parlent d'une même voix sur ce sujet, pas moi. Vous avez envie d'avoir une politique de défense commune avec Madame Meloni et Monsieur Orban? Perso, je suis assez dubitatif.
D'ailleurs, on se retrouve à parler avec les Anglais qui pourtant sont sortis de l'Union européenne. Donc, c'est pas exactement les frontières de l'UE, cette Europe de la défense à laquelle on commence à réfléchir.
Mais donc, c'est pour ça, moi, que l'idée qu'on puisse avoir des coopérations en se disant, on va se mettre à plusieurs pour avoir des programmes communs. Et évidemment, d'ailleurs, on le fait déjà en fait. Hein. On le fait déjà en Europe. On a des programmes communs en matière de défense avec d'autres pays. Mais une Europe de la défense qui serait dans l'OTAN et qui serait pas accolée à des objectifs politiques communs, je pense que c'est assez chimérique. Maintenant, ça, c'est le débat théorique. Et après, il y a la réalité. Parce que j'entends beaucoup de doubles discours. J'entends beaucoup de gens dire « Ah, ça y est, il y a un réveil européen d'indépendance vis-à-vis des Américains. » Est-ce que vous savez que 55% des dépenses militaires qui sont faites en Europe aujourd'hui servent à acheter des armes aux États-Unis d'Amérique?
Ouais, mais je pense que si ces pays-là, c'était à refaire, ils ne le referaient pas.
Bah, d'accord, mais
je
alors...
Je pense qu'ils choisiraient le Rafale et pas le F-35.
Ah, bah, qui commencent par annuler leurs commandes, alors pourquoi ils ne le font pas?
Bah, une fois que les contrats sont engagés, c'est un peu compliqué, c'est des coopérations de très long terme.
Nous, l'Australie nous avait planté.
Tant que les avions sont pas livrés, vous pouvez le faire.
Non, mais je amis suisses, hein, si vous nous écoutez. Et puis, le moment d'annuler vos contrats.
Vous voulez de l'indépendance avec les États-Unis. Quand il y a eu, malheureusement, la catastrophe à Mayotte. La première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un accord avec Starlink.
Ça, c'est un scandale, ça.
Bon, bah oui, d'accord. Mais si vous voulez parler de politique d'indépendance, il faut être un peu cohérent. J'ai pris ce matin un exemple, j'en profite pour en parler ici. Il y a une entreprise à côté de Grenoble qui s'appelle Vancorex. qui est une entreprise qui fabrique, qui est dans l'industrie de la chimie, et en particulier qui produit des produits chimiques qui sont nécessaires à notre dissuasion nucléaire. Cette entreprise-là, elle est menacée de liquidation judiciaire. Alors, cet après-midi, le tribunal a donné 6 mois de délai pour trouver un repreneur. Depuis des mois et des mois, moi je me suis rendu sur place, mais il y en a d'autres qui sont rendus sur place, les salariés ils disent il faut sauver, il faut conserver la maîtrise de cet outil, on ne peut pas faire en sorte que ça ferme. Il y a des demandes de nationalisation. Le gouvernement refuse de répondre favorablement à cette demande de nationalisation. Donc moi je demande un peu de cohérence. Si vous voulez vraiment être indépendant vis-à-vis des Américains, un, vous arrêtez d'acheter des armes aux Américains, deux, vous sauvez et vous préservez votre industrie qui vous permet d'être effectivement indépendant, sinon vous êtes hypocrite.
Emilio ?
Non, mais vous, là, vous renvoyez beaucoup la balle dans le camp des, vers les libéraux, les macronistes, etc.
C'est le président de la République.
Je sais, non, mais Macron, bien, mais justement, c'est pas moi. La gauche demain au pouvoir, avec qui elle nouerait des alliances de coopération et ça, non, mais ça veut dire quoi des coopérations militaires? C'est quoi dans votre tête?
Bah, il y a déjà des coopérations de programmes communs, par exemple, un programme commun pour construire ensemble un char, pour construire ensemble. Et donc, c'est des programmes dans lesquels on mutualise nos efforts de défense.
Mais donc, réindustrialisation militaire, ça vous parle?
Moi, d'abord, que les choses soient claires, je pense que l'économie. Je suis pas fan de l'économie de la guerre, quoi. Je préfère l'économie de la paix. D'ailleurs, l'économie doit être en mesure de répondre à nos besoins fondamentaux. Parmi nos besoins fondamentaux, il y a la nécessité de pouvoir se défendre. Ça participe de nos besoins fondamentaux. Donc, évidemment que moi, je suis pour qu'on ait une industrie qui nous permet de manière souveraine de garantir nos capacités de défense. Bien sûr que je suis pour. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, ensuite d'avoir des objectifs. Par exemple, quand je défends Vancorex, il y a des gens qui me disent « Oui, mais il faut le désarmement nucléaire. » Je dis « On peut se fixer un objectif de désarmement nucléaire multilatéral, mais en attendant, il vaut mieux maîtriser complètement la chaîne de notre dissuasion. » Donc, pour vous répondre, évidemment que moi, je suis pour qu'on ait une industrie en France qui nous permette d'être indépendants dans notre capacité à produire les matériels de défense dont on a besoin.
Usul.
Tout à l'heure je parlais de qu'est-ce qui nous singularise nous les sociétés les différentes sociétés européennes donc là on a un assaut, on est pris un peu en sandwich entre des Russes dont on a dit tout à l'heure qu'ils sont très agressifs sur le terrain de la propagande en interne aussi chez nous dans nos pays pour nous déstabiliser, pour faire monter l'extrême droite notamment. Et là maintenant les États-Unis qui nous font pareil, le fameux discours de Jill Evans à Munich qui vient nous dire donc il y a une attaque contre notre modèle démocratique et qui d'ailleurs est lié, j'ai envie de dire, s'il y avait une autre singularité, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais des sociétés européennes, c'est aussi des services publics forts. Et ce serait ça qui nous singularise, c'est cet espace-là, droit démocratique, c'est-à-dire droit de l'homme et liberté individuelle, et des services publics forts, c'est un peu ça qui nous singularise. On a des alliés pour faire perdurer ce modèle-là qui pourrait être mis à bas par ces deux grosses puissances à côté qui voudraient bien que ça tombe, parce que pour les marchés américains, ce sera très bien, pour les ambitions impérialistes de la Russie, ce sera très bien aussi. C'est qui nos alliés pour faire vivre ce modèle-là?
D'abord, je suis favorable à un positionnement en matière de politique extérieure qu'on a appelé, nous, le non-alignement, c'est-à-dire l'idée de dire on n'est pas aligné sur les intérêts des Américains, je crois que je l'ai suffisamment démontré, mais c'est pas pour ça qu'on est aligné sur les intérêts
de telle
autre puissance. Non, mais précisément non. Si on est non-aligné, ça nous permet de discuter avec plein de gens et pas d'être dans une logique de bloc contre bloc. Il peut y avoir des alliés aujourd'hui, mais chacun aura ses intérêts, chacun aura ses objectifs, mais il peut y avoir des alliés dans un certain nombre de pays.
Est-ce qu'on peut jouer
sud,
la Chine?
Mais la Chine, elle a aussi ses défauts, mais il faut discuter avec la Chine. Il faut discuter avec ce qu'on appelle les pays des BRICS. Il faut qu'on parle avec le Brésil, il faut qu'on parle avec ce que certains appellent, je sais pas si c'est la bonne expression, le Sud global. Oui. Et il faut sortir de la logique d'être lié comme ça à un pseudo-bloc occidental dont tout le monde a sous les yeux maintenant à quel point, du point de vue de nos principes, nos valeurs démocratiques, on est quand même confronté à une très grande difficulté. Parce que on a parlé des difficultés et des menaces que peut faire peser la Russie. Mais quand Trump dit qu'il va envahir le Groenland, je rappelle que ça participe du territoire de l'Union européenne, à tout hasard, le Groenland. Donc c'est aussi un risque et une menace. Donc moi, je suis évidemment pour qu'on fasse vivre notre modèle. Et c'est aussi la raison pour laquelle je dis attention, ça peut pas être l'économie de guerre, la course à l'armement ou l'émergence de l'Europe, en quelque sorte, comme un empire face aux deux autres empires. Parce que sinon, je pense qu'on abandonne les valeurs qui sont les nôtres.
On pourrait continuer à discuter de ce sujet-là, qui est absolument passionnant. Et on continuera à le faire. Mais on voulait aussi aborder avec vous l'état de la gauche française.
Allons-y.
Moi, j'avais une transition toute trouvée.
C'était quoi ta transition, Léa?
Les réactions n'étaient pas tout à fait unanimes hein, dans le camp de la gauche par rapport au, à la prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir. Il y a eu quelques discussions, disons, notamment sur les réseaux sociaux entre le PS, entre vous, etc. Est-ce que vous pensez... Bon, déjà qu'effectivement, l'état de la gauche n'est pas jojo. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle, et c'est notamment ce qui est en train de se passer, la prise de parole d'Emmanuel Macron, vient encore mettre davantage d'huile sur le feu de ce qui se passe à gauche et de la désunion
En gros, on a les insoumis, les communistes d'un côté et les écolos et les socialistes de l'autre sur ce sujet. Bah, c'est un peu caricatural de ma part, mais vous avez l'idée, quoi.
Moi, je pense qu'on a été capable de démontrer. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venu sur votre plateau, c'était pendant la campagne des élections législatives.
Le NFP. C'était tout nouveau à l'époque.
Et on a fait la NUPES après 2022. Donc, je pense qu'on a été capable de démontrer que si on a de bonne volonté, y compris sur des sujets sur lesquels, parfois, on peut avoir des désaccords, c'est pas la fin du monde. On peut être capable de trouver des propositions communes pour les dépasser. Donc, moi, j'ai aussi entendu des gens dire, et là, tout le monde à gauche dire la même chose de ce point de vue-là, même s'il peut y avoir des nuances sur la réponse de Macron, il peut pas être question qu'à la fin, ça se traduise par des reculs sociaux, oui. Il peut pas être question que ça se traduise par l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Donc, je pense qu'on peut avoir des points communs. Après, je vais pas esquiver le sujet. On a effectivement une divergence qui est fondamentale aujourd'hui, qui est, en quelque sorte... Quelle gauche il faut pour lutter contre la progression qu'on voit à l'échelle mondiale, en vérité, de l'extrême droite? Et je pense que c'est important d'aborder cette discussion, indépendamment des appels parfois un peu creux au rassemblement et à l'unité. L'unité, ça se fait sur un contenu politique. Quel est le contenu politique qui permet de faire face à la montée de l'extrême droite? Qu'est-ce qu'on observe partout dans le monde? On observe, franchement, une fascisation... Et une nouvelle étape du capitalisme qui se tourne de plus en plus vers une option libertarienne. C'est venu de Milley en Argentine, c'est Trump, Musk, qui essaye maintenant, y compris, de mettre ses doigts dans les élections en France. On l'a vu dans les élections législatives en Allemagne. Face à ce modèle-là, quelle proposition à gauche permet d'y faire face? Moi, ma conviction, et c'est pas juste une conviction, c'est aussi sur la base des analyses des différentes élections qui ont pu avoir lieu, par exemple en Allemagne, c'est que la gauche, elle peut faire face si elle est radicalement antifasciste, radicalement antiraciste, radicalement écologiste, de rupture d'un point de vue économique et social, et pas dans l'accompagnement ou dans l'ambiguïté dans son rapport au libéralisme et au macronisme. C'est un point de divergence.
Aujourd'hui, vous considérez notamment que les socialistes sont dans l'ambiguïté vis-à-vis du libéralisme.
Moi qui ai décidé de laisser le gouvernement de M. Bayrou en place, mais quand vous laissez en place un gouvernement qui va mettre en place le budget le plus austéritaire de ces 30 dernières années, dans lequel vous avez un ministre de l'Intérieur qui s'appelle M. Retailleau, dont on peut dire... quand même, sans trop se tromper, que ces options politiques dérivent très largement vers l'extrême droite. Pardonnez-moi, oui, je pense que c'est une faute, qui est une faute grave.
Donc vous l'avez... Pardon,
allez-y.
Vous l'avez rappelé, effectivement, ça a été le casus belli de cet hiver à gauche, c'était le budget. Les socialistes ont refusé de censurer le gouvernement, à la différence de tout le reste du NFP. Deux semaines plus tard, ça s'est un peu rabiboché à l'occasion du vote d'une même motion de censure par toute la gauche, mais qui n'a pas été adoptée faute des voix du Rassemblement National. Léa, tu l'as rappelé, effectivement, le dossier ukrainien vient rajouter aussi une petite division, mais qui est pas forcément insurmontable. Non, il y a une question aussi de relations entre les deux familles que sont la France Insoumise et les socialistes. Il y a 15 jours, à votre place, on recevait Jérôme Guedge, le socialiste, et écoutez ce qu'il disait.
Il n'y aura plus jamais d'alliance entre LFI et le PS. Pourquoi ? Parce que d'un côté, j'imagine mal les LFI venir proposer, suggérer, quémander une alliance avec le Parti Socialiste dont ils pensent qu'il est allié avec le RN. Et dans la cohérence des socialistes, c'est aussi, et je le dis très clairement, il y en a marre de se faire chier dans les bottes matin, midi et soir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dès qu'on n'est pas aligné sur leur position, on est des sociotraites.
Voilà, donc ça c'était du côté des socialistes. Maintenant qu'on a le plaisir de vous avoir sur le plateau, Manuel Bompard, est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura plus jamais d'alliance avec les socialistes?
Mais bon, d'abord...
Pardonnez. C'est pas histoire de chier dans les bottes.
D'abord, pardonnez-moi. Moi, j'essaye d'être précis dans ce que je dis. J'ai dit à quel point je considérais que la décision du Parti Socialiste de pas censurer le gouvernement était une faute grave. J'ai donné une explication de pourquoi. On peut être d'accord, pas d'accord avec moi. J'ai donné une explication. J'ai pas dit que le Parti Socialiste était allié avec le Rassemblement National.
Juste une précision. À ce moment-là, il était questionné à l'affiche qui avait été publiée, puis supprimée. Attendez, je finis.
Mais même cette affiche ne dit pas ça.
Il mettait sur un même plan Olivier Faure et Marine Le Pen. Alors, j'ai oublié quel était le sous-titre, mais il sous-entendait
les nouvelles alliances.
Donc, excusez-moi, ça veut dire qu'il y a... enfin, c'est littéral, hein. Les nouvelles alliances avec Merkel, Le Pen et De Fort,
bon,
a priori.
Bon, il y a eu des process, ça n'a pas été validé,
pardon,
c'est parti quand même.
On n'est pas sur, je vous parle franchement. On n'est pas sur BFM TV ici.
Non.
Et je pense que tout le monde sait très bien que personne à la France Insoumise n'a jamais considéré que le Rassemblement National et le Parti Socialiste étaient la même chose. Donc il faut pas dire n'importe quoi. Par contre, ce qui est vrai et que j'ai pas de problème à redire sur ce plateau parce que c'est factuel, c'est que si le gouvernement de François Bayrou a pu rester en place, c'est parce que le Parti Socialiste d'un côté, d'accord, d'un côté, le Rassemblement National de l'autre, c'est deux côtés différents, je les mets pas sur le même plan, je dis pas que c'est la même chose, ont décidé de ne pas le censurer. C'est factuel. C'est une information que tout le monde peut vérifier et ça prête pas à polémique. Donc je précisais ce point-là parce que moi j'essaye d'être précis dans ce que je dis. Pour le reste, pardon, hein, là je veux pas être désagréable, mais Jérôme Gage, quand il a été candidat aux dernières élections législatives, il l'a pas été sous l'étiquette du Mouvement
Effectivement.
Populaire. Non, mais là, c'est personnel sur ce qu'il dit.
Non, c'est pas personnel. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que ça soit la personne au Parti Socialiste la mieux placée pour parler au nom de la stratégie d'alliance du Parti Socialiste.
Bon, mais du coup, je voulais rebondir. Pardon, je voulais juste rebondir du coup sur une question. Là, il y a des.
Allez-y.
Pardon. Il y a des élections assez importantes qui arrivent quand même en 2026. Est-ce que vous imaginez dans certaines communes faire des alliances? Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui sont en cours avec les autres partis de gauche?
Mais il peut y avoir évidemment des alliances aux élections municipales.
Est-ce qu'il y a des discussions?
Ben, il y a localement des discussions. Ouais. Nous-mêmes, je peux vous dire.
Par exemple?
Non, mais nous, on a adopté une orientation au niveau de la France Insoumise dans laquelle on a même proposé qu'il puisse y avoir des discussions nationales. Bon, pour l'instant, on se confronte à des refus de discuter des autres formations politiques, à l'exception des écologistes qui nous ont dit qu'ils étaient d'accord pour qu'on puisse avoir une discussion sur ce sujet. Donc ça, c'est pour être très factuel. Après, localement, parfois ça discute tous ensemble, parfois ça discute entre les insoumis et les écologistes, parfois entre les insoumis et les communistes. Ça, c'est des discussions qui se font locales. Et elles se font sur quoi? Elles se font sur la base du contenu programmatique qu'il y a dans les villes. On n'est pas candidat ensemble ou pas ensemble parce qu'on s'aime bien ou parce qu'on s'aime pas bien. La question, c'est est-ce qu'on porte les mêmes choses et est-ce qu'on pense que c'est ce qu'on a besoin pour ces communes-là. Moi, je veux dire, je suis député de Marseille. À Marseille, il y a un certain nombre de choses qu'on a envie de voir pour la ville et que pour l'instant, la municipalité sortante, de notre point de vue, ne met pas en place.
Par exemple. Parce qu'en fait,
vous voulez que je vous donne un exemple très concret?
Il y a pas, les
je vous donne un exemple
pas,
concret.
Ils vont challenger les socialistes, notamment à Paris, à Lille, à Montpellier, à Marseille. C'est quoi le problème avec les mairies socialistes? C'est quoi que vous voudriez voir dans ces villes-là?
Je vous donne juste un exemple. Après, moi, je suis pas là faire la campagne d'élection municipale de Marseille, mais par exemple, la liste qui a gagné la mairie de Marseille de gauche en 2020 a fait campagne sur la remunicipalisation des cantines scolaires, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit plus la Sodexo qui s'occupe des cantines. Bon, il y a quelques semaines, la mairie de Marseille vient d'annoncer le renouvellement des contrats avec la Sodexo pour les cantines scolaires.
Alors, ils n'ont pas fait campagne que sur ça, quand même.
Non, mais précisément, excusez-moi, si je prends un exemple.
Non, mais oui, on vous demande des exemples.
C'est un exemple qui illustre, mais évidemment.
Non, mais vous dites qu'ils ont fait campagne essentiellement sur ça. C'est quand même pas essentiellement sur ça.
Non, ils n'ont pas fait uniquement sur ça, mais ça faisait partie des points forts de leur programme municipal. Ben, moi, je suis pas d'accord pour que ce soit la Sodexo qui continue à s'occuper des cantines scolaires de nos gamins.
Mais stratégiquement, est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous pensez vraiment de manière très objective que la France Insoumise aujourd'hui, votre parti, a les moyen de remporter les élections au niveau local, sans alliance?
Je pense que dans un certain nombre de communes, on peut être les mieux placés pour le faire. Mais attendez, il y a deux tours dans une élection municipale. Vous m'avez posé la question de savoir si au premier tour, il pouvait y avoir des listes communes. Je vous ai dit, dans certains endroits, il peut y avoir des listes communes. Dans d'autres, il n'y aura pas des listes communes. Puis après, il y a un deuxième tour. Et je pense que globalement, tout le monde à gauche préfère toujours que ça soit une municipalité dirigée par la gauche que par la droite ou par l'extrême droite. Donc, la question que vous me posez, c'est qui est susceptible d'arriver en tête au premier tour dans telle ou telle commune?
Non,
c'est les électrices et les électeurs qui le transcontent.
Vous, en tant que coordinateur du parti,
je pense que oui.
Je manque de visibilité. C'est une question qui est vraiment assez innocente. Moi, j'ai le sentiment que la France Insoumise n'a pas une implantation territoriale très forte par rapport à d'autres partis, comme par exemple le Parti Socialiste et un peu aussi les écolos aujourd'hui. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que stratégiquement, sans alliance, même peut-être dès le départ, vous avez la possibilité de remporter tout seul des municipalités.
Je pense qu'on a évidemment la possibilité de remporter des municipalités en présentant parfois des listes insoumises seules au premier tour. Parfois, ça peut être des listes avec d'autres. Et ensuite, je ne conteste pas votre constat. Il est juste, la France Insoumise, c'est un jeune mouvement. Et du point de vue du nombre d'élus locaux, du nombre de municipalités sortantes, évidemment, la France Insoumise a moins d'élus ou de maires que le Parti Socialiste ou que Europe Écologie Les Verts. Ça, c'est vrai.
Mais c'était aussi lié à une stratégie en 2020 que d'enjamber un petit peu les élections municipales. Ça ne vous intéressait pas plus que ça en 2020. Vous étiez focalisé sur 2022. J'ai l'impression que vous faites un autre choix stratégique pour 2026.
Bah, je pense que le mouvement, c'est vrai, le mouvement, il a grandi aussi. En 2020, la France Insoumise, ça avait 3 ans. Donc, il fallait aussi construire des équipes locales, il fallait aussi structurer des équipes local.
Le fait d'avoir des députés aussi,
et
ça,
le fait d'avoir plus
ça
de parlementaires,
territorialement,
ça,
quand même.
Ça ancre territorialement, ça aide. On évolue, quoi, et c'est plutôt bien d'évoluer, je crois.
Les municipales, c'est 2026, oui. Mais je crois pas me tromper en disant que vous souhaitez toujours une dissolution.
Bah, moi,
une destitution, certes, mais une dissolution aussi.
Ou une présidentielle anticipée, quoi.
Non, mais peu importe. En réalité, ma question, c'est si des législatives ont lieu là, dès que c'est possible, en juillet prochain, est-ce que vous pensez que la gauche a intérêt à y aller séparer? Ou est-ce que ça part à la catastrophe pour tout le monde et c'est Bardella le Premier ministre?
Mais moi, mon objectif, c'est pas d'y aller séparé. Mon objectif, c'est d'y aller sur une option politique et une option politique claire. Or, vous pouvez pas.
C'était clair, le NFP.
Attendez, oui, les NFP, c'était clair. Mais vous ne pouvez pas avoir, pour vous donner juste un exemple concret, vous pouvez pas avoir dans la même coalition des gens qui sont dans l'opposition au gouvernement actuel. Et des gens qui sont dans le soutien sans participation au gouvernement actuel.
Ils sont pas dans le soutien.
Ils
ont présenté une motion de censure que vous avez votée vous-même.
Oh, franchement, vous voulez vraiment qu'on parle de cette motion de censure parce que Léo là.
Attendez, parce que la France Insoumise a jamais déposé de motion de censure tout en sachant qu'elle serait pas votée.
Non.
Sur la France 85%, il y a aucune chance que ça passe. Hein.
Non, mais la France Insoumise n'a jamais déposé une motion de censure en disant avant même le vote de la motion de censure que si elle avait une chance d'être votée, on la retirerait.
Non, ça c'est François Hollande, c'est l'a dit François Hollande, Boris Vallaud.
Ouais.
Puisque
Jérôme Guedj tout à l'heure, alors je sais pas, c'est qui? C'est vous qui choisissez qui a le droit de parler au nom du Parti Socialiste?
En l'occurrence, le président du groupe, le président du groupe et le chef du parti, oui, a priori, on peut plus de légitimité que François
Hollande.
Franchement,
si vous voulez, c'était François Hollande, c'était pas Olivier Faure. Mais sincèrement, franchement, ne prenons pas les gens pour des imbéciles. Si vous vouliez faire tomber le gouvernement de Bayrou, fallait voter une motion de censure sur le budget ou sur le budget de la sécurité sociale. Pas venir inventer, une fois que les 5 motions de censure qui ont du poids sont passées, une dernière motion de censure dont vous savez très bien que ceux qui doivent la voter pour que le gouvernement est renversé ne vont jamais la voter. À un moment, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Vous avez le droit d'être dans l'idée qu'il vaut mieux un gouvernement, même Bayrou, il vaut mieux un mauvais budget. Vous avez le droit.
Pour vous, ça rend impossible l'union.
Non, je dis pas ça. Je dis que à partir du moment où le Parti Socialiste est dans cette position-là, je vois pas comment il est possible d'avoir des listes communes avec eux. Mais pardon, la gauche, ça se réduit pas à la France Insoumise et au Parti Socialiste.
Vous avez dit qu'il s'excluait du NFP comme si d'ailleurs il y avait des cartes et deux comme si c'est vous qui les distribuiez.
Non, moi j'ai pas dit ça. J'ai dit que le lien
c'était
avec...
C'était l'une de Politis. Hein.
J'ai dit que le lien avec eux, j'ai dit que la partenariat, la coalition entre nous et eux... elle était rendue impossible par le fait qu'ils étaient dans le soutien sans participation au gouvernement.
Toute personne qui ne votera pas,
j'ai dit se mettre à distance des engagements du nouveau Front Populaire. Ah bah oui, et je peux l'argumenter si vous voulez, parce que quand vous faites campagne sur l'idée qu'il faut développer les investissements dans la transition écologique, dans les services publics, et que 6 mois plus tard, vous laissez passer un budget qui fait des coupes historiques dans le budget de l'écologie ou dans le budget du logement, oui, de mon point de vue, vous vous mettez à distance des engagements que vous avez pris devant les électrices et les électeurs.
Usule. Allez, dernière question sur l'Union, mais on va essayer de faire une question plus politique. Avec ça, on avait.
Mais non, pardon, mais ça veut dire quoi? On a l'extrême droite en effet qui est très très forte et c'est ce qui avait été le ferment aussi de l'Union au pied du mur, quoi, du NFP la dernière fois. Bardella Premier ministre, certainement pas. Et là, on oublie tout ça d'un coup. Et là, d'un coup, évidemment, même les socialistes ils reparlent avec tout le monde et puis la FI parle aux socialistes. Et on se redirige sans doute aussi vers une situation dans laquelle, de toute façon, la situation politique va imposer l'alliance d'elle-même ou presque. Est-ce que c'est un peu la stratégie, c'est-à-dire c'est un peu, est-ce que vous pensez aussi déjà que cette situation politique va imposer de toute façon l'alliance? Et ensuite, il y a une manif, vous avez prévu une manif le 22 mars, une manif antiraciste, une manif contre l'extrême droite. Est-ce que toute la gauche y sera? Est-ce qu'il y a des discussions pour que toute la gauche y soit? Est-ce que ce front
antiraciste et antifasciste peut être le ferment, à nouveau, peut être la base solide d'une union de la gauche. On oublie un peu les petits différents.
Bah, moi, je souhaite en tout cas que ça soit la base et le ferment d'une union la plus large possible avec ceux qui ont envie de se retrouver dans cette union. Maintenant, pourquoi il y a cette manifestation du 22 mars ? Et qui y appelle ? D'abord, l'idée de cette manifestation du 22 mars, c'est parce que le 21 mars, c'est une journée mondiale contre l'élimination de la haine raciale dans le monde. Et donc, le 22 mars, il y a une manifestation à l'appel d'abord de 200 associations, syndicats, collectifs qui appellent à cette manifestation. Et nous, les Insoumis, nous appelons à participer à cette manifestation, à la rejoindre, parce qu'on considère que dans le contexte qu'on vit à l'échelle mondiale, j'en ai parlé tout à l'heure, mais y compris quand même en France depuis plusieurs jours, parce que pardon, je veux pas être long, mais je rappelle que ces derniers jours en France, on a quand même une élue qui est menacée de déchéance de nationalité, un journaliste qui est pas spécialement mon journaliste de prédilection, qui se fait couper d'une antenne parce qu'il tient des propos qui sont juste vérifiés d'un point de vue historique, un ministre comme Monsieur Retailleau qui reprend toutes les propositions de l'extrême droite,
un militant CGT qui se fait poignarder
et des gens qui crient Paris est nazi dans les rues. Et je pense que dans ce pays, il y a plein de gens qui ont envie de réagir face à ça. Et donc la manière de réagir face à ça, c'est pas la seule, mais là celle qu'on a aujourd'hui, parce que pour l'instant les élections, il y en a pas, la manière qu'on a de réagir aujourd'hui, c'est d'aller dans la manifestation. Donc moi, je profite du micro pour passer le message à tout le monde en disant le 22 mars, il va y avoir des manifestations dans toutes les villes, regardez où c'est et venez, parce que c'est le moment de dire stop, c'est le moment de la riposte populaire face à cette fascisation et ce sentiment que l'extrême droite, en quelque sorte, elle peut parader, elle peut faire ce qu'elle veut, et elle bénéficie d'une complicité et elle bénéficie d'une indulgence des pouvoirs en place qui est juste inacceptable. Donc ça, c'est notre moment, donc il faut y aller, il faut être là ce jour-là.
Au-delà de la manif, vraie question.
Et sur le PS et compagnie, là.
Bah, ça, pardon, moi, je peux pas répondre à leur place. Oui. La manifestation, elle est ouverte à tous ceux qui ont envie d'y participer. Maintenant, c'est eux qui décideront s'ils ont envie d'y participer ou pas.
Au-delà de la manif, vous parlez d'une riposte contre l'extrême droite. Qu'est-ce que vous organisez en plus ?
On fait plein de choses contre l'extrême droite. On mène en ce moment autour d'un livre qui a été publié par l'Institut La Boétie, qui est l'institut de réflexion avec lequel travaille la France Insoumise, qui vient de publier un livre justement sur comment lutter contre l'extrême droite. On organise des conférences partout en France sur le sujet. On a, pardon, je vais parler de choses qui peuvent vous paraître peut-être un peu petites, mais quand on est militant, on utilise les moyens qu'on a à notre disposition. On a des campagnes de traque, d'affichage pour dénoncer l'imposture du Rassemblement National, pour montrer que ces gens-là, ils viennent au moment des élections en essayant de se faire passer comme les alliés des catégories populaires, et qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, on l'a vu dans la séquence budgétaire, ils votent avec les macronistes contre tout ce qui va contribuer par exemple à augmenter les impôts des plus riches ou des grandes multinationales, que en quelque sorte ils sont des hypocrites, des gens qui sont là pour tromper. Et on essaye de faire cette démonstration, et tous ceux qui sont, et je sais qu'il y en a d'autres, on n'est pas les seuls à essayer de le faire, et je pense qu'on a besoin de faire ce travail d'explication, on a besoin de riposte, et on a besoin de désenfumage, et je pense que les deux vont ensemble, et si on veut les empêcher, et ça moi c'est vraiment très important pour moi, si on veut leur empêcher d'arriver au pouvoir, on doit proposer une option politique, et une option politique alternative. Parce que si votre option politique, elle donne l'impression d'être une option politique qui participe globalement du système, et ben alors, à la fin, les gens, ils se disent, ben, on a le choix entre laisser les mêmes au pouvoir ou voter pour la seule alternative qui est celle de l'extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle on peut pas être en ambiguïté dans le rapport au macronisme. Parce que si on est en ambiguïté dans le rapport au macronisme, on aide l'extrême droite à s'emparer du pouvoir. Voilà ce que je pense. C'est pas un problème de j'aime pas les uns ou j'aime pas les autres. C'est pas un problème de je suis trop méchant avec le Parti Socialiste, etc. Mon problème, c'est que si notre option politique, elle est pas clairement identifiée, clairement viable comme étant une option politique alternative au pouvoir en place, alors on s'empêche de gagner. Et ça, je pense, c'est quand même important. Il y a eu les élections en Allemagne récemment. Mmh. C'était une grande coalition droite, socialiste, libéraux qui gouvernait, dirigée par les socialistes. Le Parti Socialiste Allemand, il vient de faire le pire score de son histoire depuis qu'il existe. Et l'extrême droite, l'AFD, a fait plus de 20%. Et les seuls qui ont progressé à gauche, c'est nos amis de Die Linke. Et pourquoi ils ont progressé, tout le monde le dira. Parce qu'ils ont eu la jeunesse, ils ont eu les quartiers populaires, et parce qu'ils l'ont fait sur une ligne de rupture d'un point de vue social et sur une ligne antiraciste et antifasciste. Mais moi, je tire ces enseignements et je me dis c'est la même chose qu'on doit faire.
Mais
en
alors, justement, vous parlez des socialistes allemands. Je voudrais vous reparler des socialistes français, parce qu'ils vont tenir un congrès au mois de juin prochain. C'est-à-dire que c'est un moment où les militants votent pour choisir les dirigeants du parti et les orientations politiques du parti. Et on sait aujourd'hui que le PS est divisé en deux, entre une ligne qui est celle de l'actuel premier secrétaire Olivier Faure, plutôt favorable à une union avec les Insoumis qui a eu lieu à deux reprises, la NUPES plus le NFP, et ses opposants en interne qui sont plutôt favorables à une séparation la plus nette possible entre le Parti Socialiste et le NFP. Nicolas Maillard-Rossignol, candidat contre Olivier Faure, a même déclaré, il a dit entre Glucksmann et Bompard, il faut choisir. Alors, je vous demande pas entre lesquels des deux vous choisissez. Par contre, je vous demande si vous êtes d'accord pour dire que ce congrès du PS va être un moment un peu important quand même pour l'avenir de la gauche.
Bah, vous m'auriez posé la question il y a 6 mois, je vous aurais dit oui. Je réponds de manière tout à fait honnête et transparente. J'ai eu l'impression ces derniers mois que l'orientation du Parti Socialiste et d'Olivier Faure en particulier, malheureusement, se rapprochait, de mon point de vue un peu trop, de l'orientation politique de ceux qui étaient initialement ses opposants. Puisque dans les dernières déclarations, j'ai l'impression qu'il reprend un peu à son compte l'idée que de toute façon, on ne peut pas travailler avec les Insoumis. Voilà, ça c'est la première chose que je veux dire. La deuxième, c'est franchement, pour le bien de tout le monde, je pense qu'il est mieux que je ne prenne pas parti dans le progrès du Parti Socialiste.
Oh, parce que, non mais si, quand même,
je vais vous dire pourquoi. C'est parce que si je dis que je soutiens l'un, mais alors les autres, ils vont tout de suite l'utiliser pour dire « Regardez, la preuve qu'il ne faut pas voter pour lui, c'est parce que je soutiens l'un. »
Mais pourquoi vous ne soutenez pas celui que vous voulez pas qu'il...
soutenez Nicolas Maillard-Rossignol, je le savais.
Vous êtes malin, vous.
Si vous êtes si radioactif que ça au PS, servez-vous.
Non, moi je pense qu'ils vont faire... ils ont leur moment, et ils choisiront les orientations qui sont les leurs, et en fonction des orientations qu'ils auront choisies, ben, on verra quelles conséquences ça aura sur la suite.
C'est quand le prochain congrès des LFI ?
À la France Insoumise, il n'y a pas de congrès. À la France Insoumise, il y a ce qu'on appelle des assemblées représentatives. Mmh. Parce que ça vous fait rire, mais peut-être que vous ne le savez pas, d'ailleurs. Et la dernière, elle a eu lieu au mois de décembre.
C'est là que vous avez mis à jour votre programme, d'ailleurs.
On a mis à jour notre programme un petit peu après, au mois de janvier. Mais par contre, au moment de notre assemblée représentative, on a adopté un texte d'orientation sur les municipales, sur les présidentielles, sur les législatives. Et contrairement à ce que j'entends parfois à la télévision, ce texte, il a été travaillé par tous les groupes locaux de la France Insoumise. Il y en a plus de 2000 sur l'ensemble du territoire national. Et ensuite, il a été soumis au vote sur la plateforme de la France Insoumise et il a été voté à 93%. Voilà. Donc, pour ceux qui disent qu'à la France Insoumise, il n'y aurait pas de moment où on peut discuter collectivement ou de moment de validation de nos orientations, c'est complètement faux. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière que les autres, parce que nous, on ne fait pas des congrès tous les 3 ans, on fait des assemblées représentatives tous les 6 mois. C'est la méthode d'organisation collective qu'on a choisie. On a le droit de ne pas être d'accord avec, mais elle n'est pas moins valable que celle des autres. De mon point de vue, elle est même un peu meilleure.
Mais les militants ne choisissent pas leurs dirigeants, si je ne m'abuse. Il n'y a pas de vote pour les différents...
Ils le font secteur par secteur.
Ils ne vous ont pas élu, par exemple.
Ils le font secteur par secteur, dans une coordination. Et cette coordination, ensuite, elle choisit en son sein son coordinateur ou sa coordinatrice. C'est comme ça qu'on a fonctionné pour le renouvellement de notre direction. La dernière fois, c'était en 2022. Voilà, pour être tout à fait explicite. Et si vous êtes très intéressé par la France Insoumise et son fonctionnement, vous pouvez aller sur le site de la France Insoumise et tout est expliqué.
C'est expliqué comment vous choisirez aussi la suite de Jean-Luc Mélenchon. Parce que
vous voyez, texte d'orientation dont je suis en train de vous parler, il précise exactement la manière avec laquelle la France Insoumise choisira son prochain candidat ou sa prochaine candidate à l'élection présidentielle. Par une proposition qui sera faite par la direction du mouvement à ce qu'on appelle l'intergroupe, c'est-à-dire là où il y a tous nos députés et nos députés européens. Et ensuite, cette proposition, elle sera faite à tous les insoumis qui voteront en faveur ou contre cette proposition.
Donc, c'est la proposition d'un seul nom ?
Oui.
Ah, d'accord, ok.
Avec des débats qui sont transparents pour les débats entre vous au sein de la direction ou pas ? Est-ce que les militants sauront pourquoi ?
Mais nos débats, ils sont toujours transparents. Mais si vous avez envie de participer à nos débats, je peux juste vous inviter à rejoindre la France Insoumise, vous verrez. Mais on débat de tout, on en débat souvent. Mais juste, on a un mode d'organisation qui est un peu différent.
Mais on cherche à comprendre. Vous ne sentez pas agressé ?
Je ne me sens pas agressé, pas du tout. C'est juste que, par exemple, vous me posez une question, elle est dans notre texte d'orientation. Et ce texte d'orientation, il est public, il a été adopté au mois de décembre. Donc, c'est pas du tout que je me sens agressé, j'essaye de vous informer.
On vous donne juste l'occasion.
En réalité, on en a déjà discuté à l'Assemblée,
On vous donne juste l'occasion, effectivement, d'expliquer les choses.
Non, mais pas de problème, je les explique avec grand plaisir.
Donc, ce sera un vote plébiscitaire pour le futur ou la future candidate pour l'élection présidentielle.
C'est notre modalité de choix de notre futur ou candidat ou candidate.
Le temps pour une dernière question.
Vas-y, Usul.
Ouais. Il y a un sujet qui a été au cœur de l'actu ces derniers temps. Il y a eu la fin de C8 et tout. On parle de montée de l'extrême droite. Il y a aussi la montée du groupe Bolloré. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait de l'ARCOM? L'ARCOM, dont certains étaient contents, se disaient, bah, tiens, ils ont censuré. Ah, c'est bien. D'autres qui disaient, ah, l'ARCOM a censuré, c'est horrible. Je crois qu'il y a un des problèmes avec l'ARCOM, c'est quand même son mode de désignation des gens qui sont dedans. Question ouverte, ce serait quoi une autorité de régulation qui ferait bien son travail, qui serait représentative et dans lequel on pourrait avoir confiance, y compris pour bien faire ce travail de régulation et le faire de manière légitime. Ça serait quoi une bonne régulation?
Merci. Mais je pense que ça, je pense qu'il pourrait y avoir au moins. J'en sais rien, il n'y a pas de proposition dans le programme de la France Insoumise sur ce sujet.
Non, je pense même que ça manque de travail à gauche.
Mais il pourrait par exemple y avoir une émanation des journalistes, il pourrait y avoir une émanation des téléspectateurs, il pourrait y avoir une structure qui est chargée de vérifier. Parce que quand même, il y a eu beaucoup, j'en profite, il y a eu beaucoup d'hypocrisie dans ce débat quand même, sur la fermeture de
C8.
Alors moi, franchement, voir la droite et l'extrême droite, qui pendant des années et des années, à longueur de plateau, dit que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes et qui refuse qu'une chaîne qui a reçu plus de 20 signalements pour avoir des pratiques qui ne respectent pas les règles d'attribution des fréquences, au bout d'un moment on leur dise bah vous pouvez pas avoir votre fréquence, et les voir tous pleurer, couiner en disant que c'était une remise en cause de la liberté d'expression, les mêmes qui nous poursuivent pour apologie du terrorisme quand ce qu'on dit ça ne leur convient pas, et ensuite voir monsieur Hanouna venir nous dire qu'il allait pleurer pour les 200 salariés de C8, comme si monsieur Hanouna, il en avait quelque chose à faire des salariés de C8. Franchement, j'ai trouvé cette séquence dégueulasse d'hypocrisie, pardonnez-moi du terme. Moi, je dis franchement, oui, la chaîne, elle a pas respecté ses obligations, et c'est normal que les chaînes, elles aient des obligations. Et quand une chaîne, elle ne respecte pas ses obligations, c'est normal, non pas qu'elle soit fermée, parce qu'elle n'a pas été fermée. Non. Juste qu'elle n'ait pas la fréquence pour pouvoir continuer à diffuser,
parce que
cette
fréquence, en fait,
elle est conditionnée à des conditions. Et ensuite, s'ils décident de fermer la chaîne sur cette base-là, c'est le groupe Bolloré qui a laissé tomber les 200 salariés, c'est pas l'ARCOM. Je suis pas là pour défendre l'ARCOM, j'ai plein de critiques à leur faire, mais sur ce sujet, je trouve la manière avec laquelle il y a toute une partie de la classe politique, et y compris du gouvernement en France, qui est venu pleurer des fausses larmes sur la liberté d'expression, franchement, ça m'a écœuré.
Et je rappelle que l'ARCOM est attaqué par l'extrême droite, qui veut sa suppression, qui, comme d'autres autorités...
Ils veulent tout déréguler, de toute façon.
Oui, mais vraiment,
les
bons, ils veulent déréguler. On peut quand même réfléchir à comment ça pourrait être plus efficace.
Oui,
carrément,
non,
sans,
mais bien sûr.
Se joindre...
D'où la question, ça peut être un angle de réflexion.
Et comment faudrait faire une autre ARCOM, quoi.
Nous, on était pour un conseil de déontologie dans les médias, plus large, qui permette aussi, parfois, parce que quand il y a quelque chose de faux dans les médias, aujourd'hui, vous avez peu de moyens démocratiques pour pouvoir dire, bah, c'est pas normal, c'est pas pour les contrôler, c'est pas... pour quand même vérifier que les règles, elles puissent s'appliquer.
Le problème de la déontologie, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conseils déontologiques qui sont notamment pour les avocats, c'est l'ordre des avocats ou l'ordre des médecins, c'est des professions qui sont libérales. Aujourd'hui, les journalistes ne sont pas des professions libérales. C'est-à-dire qu'ils répondent à un emploi, ce sont des salariés.
Il y a des pays où il y a des conseils de déontologie pour les médias.
Ça pose une question.
Ça peut poser une question, mais moi, je trouve que ce serait quand même bien qu'il puisse y avoir un cadre de cette nature. Maintenant, si on veut faire un vrai débat sur les médias,
oui, et la concentration de la presse, la propriété de la presse, les droits des journalistes aussi, pas seulement leur taper sur les doigts.
On est à côté du sujet si on ne pose pas la question de l'hyperconcentration, si on ne pose pas la question d'une loi de déconcentration dans les médias pour que ça ne puisse pas être le même propriétaire qui possède quasiment tous les médias.
L'esprit des
ordonnances, ça sera des mesures qui seront des mesures fortes. Ça serait un débat à part entière.
Et ben on vous réinvitera à ce moment-là. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'être venu sur le plateau de la suite.